En douceur avec Gisèle Ratzé dans Remue Ménage, Radio Zone Onde Femmes 93.8. Nous découvrons jusqu'à maintenant avec Gisèle ce qu'est le monde de la chanson en Suisse romande. Si vous nous avez écoutés, vous avez vu que ce n'est pas très facile de choisir de rentrer dans ce milieu-là et d'avoir envie de faire que la musique soit votre occupation principale et votre passion. Et je propose que maintenant nous découvrions avec Gisèle, disons, quelques aspects qui m'ont intriguée en découvrant Gisèle à partir d'articles, mais je crois, Gisèle, vous me l'avez dit tout à l'heure, qui sont déjà anciens. On est souvent confronté à ce problème-là. Comme journaliste, on nous file des articles qui sont souvent très vieux et moi, personnellement, j'ai beaucoup de peine à oser poser des questions à partir de ça. Je me dis, c'est peut-être tout faux. Alors, si jamais c'est tout faux, vous m'arrêtez.
Oui, il n'y a pas de problème.
Alors, il y a une chose qui m'a frappée, c'est que vous auriez déclaré, je mets ça entre guillemets, que, bon, d'abord, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous défendiez la chanson en français, que vous revendiquiez le fait de faire de la chanson de variété, ça peut-être vous allez nous l'expliquer, et que vous n'aviez aucune intention de faire des chansons qui transmettaient un message, et entre autres, vous précisiez féministe, politique ou sociale. Alors évidemment, dans Remue Ménage, on est intéressé par les propos féministes, je vous le racontais tout à l'heure en vous parlant de l'émission. Alors j'adorerais évidemment que vous m'expliquiez un petit peu pourquoi vous aviez dit ça, si vous l'avez vraiment dit.
Je le dis toujours. Variété, il y a de la bonne et de la mauvaise variété, comme il y a du bon et du mauvais jazz. On appelle aujourd'hui variété, dans le temps on disait music hall. Je veux dire, ce terme paraît toujours très péjoratif, mais en somme, Michel Jonas fait de la bonne variété, il ne fait rien d'autre.
Mais pourquoi avoir besoin de spécifier justement ? C'est ça qui me surprenait plutôt.
Alors si je l'ai spécifié, c'est qu'on m'a demandé, on m'a posé la question, qu'est-ce que c'est que ce que vous faites ?
Mettant un a priori négatif sur le terme variété, en disant c'est de la musique de deuxième catégorie, enfin qu'est-ce que vous
comprenez ? Non, non,
en
me disant qu'est-ce que vous faites ?
Alors, on vous demandait d'essayer de vous donner un style, de vous qualifier, de définir.
Voilà. Maintenant, en ce qui concerne les propos que j'ai dit, politique, sociale, etc., je le dis toujours, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les gens. C'est les toutes petites choses qui sont quotidiennes. C'est la voisine du dessous ou la dame du kiosque. Ou toutes les chansons que j'écris sont au départ partent d'une émotion que j'ai eue, mais qui ne sont pas des grands événements. C'est des choses quotidiennes. Et je trouve que c'est important de parler de ces choses-là.
Mais si je me fais un peu l'avocate du diable, je crois que parler des femmes, puisque je ne sais pas si vous l'avez fait par hasard, mais vous avez donné des exemples de femmes dont vous aviez envie de parler. Est-ce que ce n'est pas, entre guillemets, être féministe que de parler des femmes que vous rencontrez, c'est-à-dire votre façon de voir les choses à travers vos yeux de femme? Pourquoi vous aviez besoin de dire « je ne suis pas féministe » ? Qu'est-ce qu'il y avait derrière ou « je ne veux pas avoir des chansons à message féministe » ? Qu'est-ce que vous craignez derrière cette étiquette ? Parce que je crois que vous n'êtes pas la seule, si c'est le cas, à craindre cette étiquette. Peut-être aujourd'hui c'est une étiquette dure à porter en général.
Mais d'une certaine manière, je suis féministe, bien entendu. Mais c'est vrai que je ne suis pas un porte-drapeau. Et je ne tiens pas à l'être non plus. Par contre, parler des femmes, ça oui. Ça, non seulement ça m'intéresse, mais ça me touche. Et d'ailleurs, le trois quarts du temps, j'ai beaucoup plus écrit de chansons sur les femmes que sur les hommes, par exemple. Aucun homme ne m'a inspiré une chanson, voilà. L'amour, oui. Les rapports entre êtres humains, oui. Mais c'est vrai que maintenant qu'on en parle comme ça, je... Enfin non, c'est pas vrai. Je me rends compte que c'est faux. Non, c'est pas tout à fait vrai. Le Petit Loup, c'est quand même une chanson... C'est une petite lettre à un garçon.
Quand vous dites Vous avez l'impression de vous sentir porte-drapeau parce que vous chanteriez.
Non, justement, je ne veux pas être.
Oui, mais si vous le faisiez, vous vous sentiriez porte-drapeau pour les chansons à message, en règle générale. Mais je suis frappée tout à l'heure, par exemple, vous avez cité Charlie Couture, d'autres gens qui, quand même, dans leurs chansons, affirment un certain nombre de choses. Et quand, dans la chanson que nous venons d'entendre, Solitaire, vous évoquez aussi des situations importantes, quelle différence subtile vous faites entre parler de choses graves et importantes ou légères mais importantes? Et puis le porte-drapeau. Moi, je ne vois pas très bien la distinction, parce que visiblement, vous soutenez des choses importantes aussi dans vos chansons. Je comprends mal cette distinction que vous faites.
En somme, pour moi, c'est assez simple. C'est peut-être pas simple pour les autres. Mais encore une fois, je suis touchée par des choses quotidiennes, vraiment. Par les gens dans tout ce qu'il y a de banal, aussi bizarre que cela puisse paraître, beaucoup plus que par de grandes causes. Voilà.
Ah, c'est cette opposition entre grandes causes et choses quotidiennes qui vous frappe.
Bizarrement, ce qu'on appelle la banalité, est vraiment chargé de beaucoup de choses. Parce que derrière tout ce qui est banal, il y a énormément de choses si on prend la peine de s'y pencher, quoi.
Alors, vous le disiez, Gisèle Ratzé, vous écrivez vous-même un bon nombre des chansons que vous interprétez. Et puis, vous interprétez les chansons d'autres personnes qui les ont écrites. Est-ce qu'elles les ont écrites pour vous? Quel rapport vous avez avec les gens qui écrivent pour vous? Comment ça se passe?
Alors, en ce qui concerne Jean-Claude Isenmann, toutes les chansons qu'il a écrites pour moi ont été écrites pour moi. Ce n'était pas un tas de chansons qu'il avait comme ça dans un tiroir pour moi ou n'importe qui d'autre. Jean-Pierre Huser a écrit une chanson pour moi aussi. Et les deux chansons qu'a écrit Étienne, Solitaire et Souvenir, sont des chansons qu'il a écrite lui, mais qui, moi, me touchait parce que c'est des choses que j'avais aussi envie de raconter.
Alors, je ne sais pas, est-ce que quand les gens vous disent, bon, il a écrit lui, est-ce que on vous propose un texte et puis vous dites, cette chanson me passionne, oui, j'aime beaucoup, je la prends. Est-ce qu'il y a une interaction entre l'auteur et vous? Puisque comme vous écrivez vous-même des chansons, je pense que parfois ça doit être difficile de prendre simplement un texte comme ça sans avoir envie d'y mettre un petit peu son grain de sel.
Ah mais on y met toujours un peu son grain de sel, toujours un tout petit peu, ou même des fois beaucoup. C'est assez logique, même si on change qu'un mot ou une intention, il y a toujours un petit travail là qui se fait.
Et faut-il que les auteurs qui écrivent des chansons pour vous ou que vous choisissez vous connaissent très bien pour que vous aimiez leurs chansons? Est-ce qu'il y a ce rapport important de l'autre qui sait ce qu'on est et qui finalement parle un petit peu avec notre pensée?
Alors je pense qu'il y a les deux. Je pense que Jean-Claude Isenmann, s'il a écrit les chansons comme il les a écrites, c'est qu'il me connaissait très bien. Et je pense qu'on peut aussi tomber sur un texte de quelqu'un qu'on n'a jamais vu ou qu'on connaît à peine et qui fait flash et qu'on a envie de chanter. Donc les deux choses existent.
On a entendu deux chansons très différentes au niveau du style de musique. Et vous le disiez tout à l'heure, j'aime le rock, j'aime le jazz, etc. Est-ce que ça veut dire que dans votre façon de chanter, vous avez envie d'utiliser tous ces styles musicaux? Vous n'avez pas envie qu'on vous catalogue dans l'un ou l'autre style de musique?
Non, moi j'aime pas les étiquettes. D'ailleurs, je trouve qu'il n'y en a aucune qui me convient. Donc, c'est pas prétentieux du tout, mais je trouve que ça va jamais, quoi. Donc cela dit, on a quand même forcément un style, heureusement d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Alors là, c'est vrai qu'on a entendu deux chansons très très différentes, mais dans l'ensemble, cet album est un album quand même plutôt doux, soft et assez mélancolique.
C'est pour ça que vous l'avez appelé En douceur.
Oui.
C'est important, le titre générique d'une nouvelle œuvre, pour qualifier, disons, donner un fil rouge à l'ensemble du disque.
Oui, moi je trouve. Je trouve que ce disque doit s'appeler En douceur et pas, je vois pas quel autre titre je pourrais lui donner. Et si j'ai appelé Incohérence le premier, c'est que justement il y avait peut-être plus de styles musicaux qui se croisaient. Et il y avait aussi notamment un titre qui s'appelait Incohérence, bien sûr, autrement je ne serais quand même pas appelée comme ça. Mais je trouvais que ce titre était juste par rapport au choix musical. Je veux dire, il y a une différence entre le premier et le second album. Je veux dire, le second album, il est beaucoup plus cohérent. Voilà.
On dit encore de vous, mais je trouve d'ailleurs cette appellation étrange, mais ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez, dans un des articles que je lisais, que Gisèle Ratzé a bien grandi au fil des années. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que vous sentez vous-même que vous avez changé au cours des années où vous vous êtes lancée dans la chanson? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir découvert une voix différente de celle du tout début de vos chansons?
Alors, je vais vous dire d'abord une chose. Moi, j'ai toujours l'impression que je ne suis pas encore finie. Donc, que j'ai encore beaucoup à faire pour grandir. Cela dit, entre le début et ce que je fais maintenant, c'est vrai qu'il y a eu une grande évolution, heureusement. Et que plus le temps passe et plus je me rapproche de moi-même. Donc, oui, j'ai un peu grandi quand même.
Mais c'est une évolution dans le sens de la qualité du travail, du type que vous découvrez justement en travaillant dur avec certains musiciens et autres, ou est-ce que c'est la voix sur ce que vous avez envie de dire par vos chansons? Est-ce que c'est les lieux où vous avez envie d'être et de la place que vous avez envie de prendre? Qu'est-ce que ça veut dire beaucoup changer, beaucoup évoluer? Parce qu'on peut évoluer dans plusieurs directions. Vous avez l'impression que vous avez envie d'être plus près de vous-même au niveau du fond, du contenu?
Oui. Bon, je pense que j'ai eu des... Si on parle par exemple depuis le début, j'ai eu des textes plus ou moins bons. Au début, je n'ai pas eu que des textes qui me plaisaient toujours forcément, mais qui parlaient de choses qui m'intéressaient. Musicalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que j'allais un peu dans trop de sens différents. Donc ce qui a changé, c'est que les choses sont plus claires aujourd'hui. Et le fait d'avoir eu la possibilité de chanter un peu plus que deux ou trois fois par année, comme c'était le cas au tout début, m'a permis aussi de faire un travail sur moi-même au niveau de la scène.
Il y a une chanson que vous avez écrite, Gisèle Ratzé, dans ce dernier CD, En douceur, qui a pour titre « Or noir ». Et en lisant le texte de la chanson, parce que j'ai d'abord lu le texte, cela m'a frappée, je me suis dit « c'est peut-être le résultat d'une rencontre ». Est-ce que c'est le cas?
Oui, oui, tout à fait.
Alors, est-ce que vous pourriez nous parler? Ou est-ce qu'on écoute peut-être d'abord la chanson et puis
oui,
vous nous
d'accord.
racontez après? Alors, je vous redis le titre, Or Noir, écrit par Gisèle Ratzé, mise en musique par Étienne Sberen.
Des mille et une nuits, la hauteur du puits te donnait le vertige. Tu voulais combler le vide avec le sable humide, l'âme d'illusion qui te renvoie jour après jour. À l'heure du premier jour, t'es née dans un puits d'or noir, enfant princesse des mille et une nuits. Soleil trop rouge, soleil trop lourd, s'enrouler de noir pour lever les yeux. Soleil trop rouge et bien trop lourd, s'enrouler de noir. Mmh. voisin, puis dors noir, dors noir. Fille princesse des mille et une nuits, la hauteur du puits donnait l'illusion. T'as fini par aimer un peu trop ce vertige qui te séparait, qui vous séparait. Soleil trop rouge, soleil trop lourd, sans rouler de noir pour lever les yeux. Soleil trop rouge, soleil trop lourd, sans rouler de noir, soleil trop rouge et bien trop lourd, sans rouler de noir.
تتمشى وهي فخورة بأصلها وبالنسبة لها إن
Or Noir, une chanson écrite par Gisèle Ratzé, avec qui nous discutons bien sûr de sa carrière à elle et puis du monde de la chanson. Gisèle, alors Or Noir, on le disait, c'est le fruit d'une rencontre et puis c'est une rencontre qui va au-delà du contenu d'une chanson mais qui va dans un travail justement à propos de la sortie de votre disque.
Oui, bon, d'une part, la personne qui dit le poème en arabe et qui fait l'écrit berbère au début, c'est donc Nasma Al-Amir qui a fait aussi la pochette du disque.
Alors on est à la radio, il est difficile de donner des images très frappantes, mais je crois qu'on peut dire qu'il y a effectivement une composition particulière de la photo de la pochette. Il y a votre portrait mais qui n'est pas mis traditionnellement comme ça en premier plan. Il est disposé de façon horizontale et parmi un ensemble d'objets lié aux voitures, visiblement. Est-ce qu'on reconnaît le Jaguar des Jaguars, des voitures Jaguar, des phares de voitures, des fils de fer? C'est un peu difficile à évoquer comme ça
oui,
à la radio.
Assez, je crois que c'est assez
Il faut que les gens se trouvent confrontés. Oui. On vous conseille vivement de regarder le CD lui-même. En tout cas, moi, je me sens assez impuissante à vous décrire vraiment la force de cette composition, parce que je crois qu'il y a vraiment une composition intéressante. Alors,
oui, moi, je trouve qu'elle a fait un très, très beau travail, vraiment.
C'est une rencontre de hasard liée à votre chanson ou bien c'est le fruit au contraire d'une connaissance plus approfondie qui fait qu'à un moment donné, on peut à la fois participer à l'écriture d'une chanson, à la réalisation de la chanson et puis en même temps, on participe à toute autre chose qui est la réalisation technique d'un disque.
C'est quelqu'un que je connais depuis très 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 longtemps, qui était la copine d'un musicien avec qui je travaillais.
Donc en fait, visiblement, vous vous entourez, Gisèle Ratzé, de gens qui sont proches de vous. Et c'est important pour aller de l'avant dans ce monde-là.
Il m'est arrivé de faire des erreurs, à savoir de me tromper. Et je crois qu'il n'y a rien de pire.
Qu'est-ce que vous voulez dire par de me tromper ?
De me tromper de personnes, je veux dire de musiciens, par exemple. Et ça, c'est très douloureux.
Vous disiez en tout début d'émission, et j'aimerais bien qu'on finisse par cela parce que ça m'a aussi intriguée, vous disiez chanter c'est un luxe. Pourquoi, Gisèle Ratier?
Eh bien, écoutez, je pense que d'être caissière à la Migros, c'est quand même moins gratifiant que de chanter, franchement.
Certainement, mais dites-nous un petit peu plus. Mais vous venez nous parler malgré tout des nombreuses difficultés pour arriver à exister, à vivre ce que l'on aime faire dans le monde de la chanson. Et puis, évidemment, c'est toujours ce qu'on dit à propos de toutes les formes artistiques. Est-ce que la culture est un luxe? Est-ce que la culture est une chose indispensable à la vie des êtres humains sur cette terre? C'est une longue question et vous y avez sûrement beaucoup réfléchi quand vous dites chanter c'est un luxe.
Moi, je pense que c'est indispensable. Et je pense que je ne serais pas très heureuse si je devais faire autre chose.
Parce que malgré tout, je suppose que pour continuer à faire ce que vous avez choisi de faire, il faut une sacrée dose d'énergie et être fonceuse au-delà de tout pour pouvoir vraiment vivre ce que vous avez envie de vivre.
Il faut le vouloir, ça c'est sûr. Il faut le vouloir très fort. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un immense plaisir. Et que le plaisir fait peut-être quand même un peu oublier tout ce qu'il y a de dur dans ce métier.
Mais quand vous utilisez l'expression luxe, est-ce à dire que parfois vous vous dites « je ferais mieux de faire autre chose qui soit moins considéré comme quelque chose de luxueux, c'est-à-dire pas forcément indispensable ?»
J'aimerais bien pouvoir me le dire quelquefois, mais honnêtement, je vois pas ce que je pourrais faire d'autre.
Ça veut dire que c'est vraiment à un moment donné, ça vous habite suffisamment fort pour vous dire, je me vois rien faire d'autre.
Pas pour l'instant, peut-être qu'un jour je changerai, peut-être qu'un jour je laisserai tout ça et que je ferai autre chose, je ne sais pas, mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est ça que je veux faire et rien d'autre.
Et c'est votre moteur, par rapport aux obstacles dont on parlait en tout début d'émission.
Oui. Mais c'est un moteur, pas seulement par rapport aux difficultés, c'est un moteur de vie aussi.
Y a-t-il des gens qui vous ont comme ça donné un petit bout d'énergie pour continuer de l'avant? Soit des gens qui, comme vous, sont dans ce métier et qui peut-être vous ont dit « non, mais on y arrive quand même une fois ». Est-ce qu'on a besoin de ces petits, comme ça, coups de pouce pour se donner cette énergie, pour arriver dans ce monde-là?
Bien sûr. Et on en a, je veux dire, ne serait-ce que de voir un musicien qui est content de jouer, ça fait du bien. Et puis, il y a les gens qui sont, je veux dire, Claude, par exemple, mon frère, qui jusqu'à aujourd'hui s'occupait de vendre les spectacles, qui a fait le budget pour ce disque, etc., a toujours été près de moi. Et il y en a d'autres comme ça, je veux dire, j'en oublie plein, qui ne m'ont jamais lâché. Et je pense que c'est très important.
Alors Gisèle Ratier, je propose que pour finir, on écoute une autre chanson que vous avez écrite vous-même et qui s'appelle « Si bien commencer ». En tout cas, je vous remercie d'être venue jusqu'à nous.
Et moi, je vous remercie de m'avoir accueillie.
Un matin, le regard s'arrête, miroir, dis-moi. Le même visage sage, un peu creusé, fatigué. T'arrête, miroir, dis-moi, d'où vient ce vide séril et ce malaise qui pèse, qui pèse, qui pèse. Matin, réveil brutal, j'ai mal, je sais plus où accrocher ma vie. Réveil brutal, tout avait si bien commencé. Tout avait si bien commencé.
regard t'arrête, miroir, dis-moi. Au-delà de l'image, mirage, combien d'années séparées de mon cœur à mon corps. Matin, réveil, brutal, j'ai mal, je sais plus où accrocher ma vie. Réveil brutal, tout avait si bien commencé. Je n'ai pas l'âge de tourner.